il a fini par prouver sa bonne foi en faisant apporter des documents sur le film et il a été relâché. Et c'est d'autant plus heureux que ce que la Pete ne savait pas, c'est que mon papa donnait effectivement en scred de l'argent tous les ans aux communistes portugais. Bon, Salazar, il a quand même vécu encore un an et demi. Et en 1974, il y a exactement 50 ans, son régime est tombé grâce à un coup d'État militaire où les militaires, une fois le coup d'État passé, ils ont rendu le pouvoir aux civils, ce qui arrive jamais. Les Portugais, ils sont peut-être pas Goya ou Velasquez, mais ils sont hyper forts en révolution.
David Castelo Lopez, merci infiniment. Les infos à suivre.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390 € par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
France Inter,
première radio de France.
9h01. Les dernières infos, Anaïs Feugat.
Arnaud Lagardère se démet de son mandat de PDG après sa mise en examen hier pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. Il l'annonce à l'instant. L'héritier de l'Empire Lagardère est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour avoir financé son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plus de 10 ans. Au tribunal correctionnel de Paris, les familles des victimes de l'accident du TGV Est en 2015 vont pouvoir s'exprimer aujourd'hui. L'accident avait fait 11 morts après un déraillement à cause d'une vitesse trop rapide. Les trois cheminots présents dans la cabine et les trois entreprises poursuivies se sont déjà expliqués, mais sans jamais reconnaître leur part de responsabilité, regrettent les parties civiles. Jean-Philippe Degnaud.
Depuis le 4 mars, Christine et Jacques Landais n'ont pas raté une seule journée d'audience, malgré la grande technicité des débats. Pour leur fils, Jérémy, expert SNCF, décédé à l'âge de 28 ans le jour du drame, ils espéraient entendre des représentants d'entreprises reconnaître une part de responsabilité dans l'enchaînement des fautes qui ont conduit à la catastrophe.
On a affaire à beaucoup de langues de bois, de non-dits. SNCF Mobilité n'a pas compatit avec les familles des victimes en début d'audience. Et ça, j'ai trouvé ça très bien parce que tout le monde compatit. Mais en fait, les gens n'en ont rien à faire. Hein. Sincèrement, il faut être honnête. Hein.
Ils sont prêts à passer pour des incompétents, même ridicules, du moment qu'ils ne mettent pas à mal leur entreprise. C'est ça qui est vraiment impressionnant.
Ils sont bien briefés hein, par leurs avocats, hein. c'est clair. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'aveux de la part de toutes les personnes auditionnées, mais on n'est pas surpris, non.
Assis au premier rang du public chaque jour, les époux Landais sont persuadés que les trois magistrats du tribunal ont bien conscience de l'attitude fuyante des prévenus telle qu'ils l'aperçoivent.
Lui comparaîtra devant un tribunal correctionnel en octobre. Gérard Depardieu sera jugé pour la première fois pour agression sexuelle. L'acteur de 75 ans est accusé par une décoratrice et une assistante réalisatrice lors du tournage des Volets Verts en 2021. Interdire les écrans à tous les enfants de moins de 3 ans, c'est la principale recommandation du rapport d'experts remis aujourd'hui au chef de l'État, qui en fait d'autres. Pas de portable avant 11 ans et à 11 ans, d'accord pour un téléphone mais sans Internet. Le smartphone conseillé uniquement à partir de 13 ans et avec un contrôle strict, en particulier sur les réseaux sociaux. Les experts appellent donc à reprendre le contrôle. Les parents sont quasiment hors jeu, disent les membres de la commission, face à un marché qui s'est imposé à la société. Des experts qui se disent aussi bousculés par les stratégies de captation de l'attention des enfants. Les dernières auditions aujourd'hui au Palais Bourbon de la Commission sur la fin de vie, ces 71 parlementaires qui depuis plus d'une semaine interrogent médecins, associations, cultes afin d'affiner le projet de loi sur la fin de vie du gouvernement. Un sujet vertigineux et encore beaucoup de points d'interrogation sur l'écriture de ce texte, Alice Cachaner.
Tout d'abord, il y a la question du vocabulaire. En l'état, le projet de loi évacue les termes suicide assisté et euthanasie au profit profit de l'expression plus équivoque d'aide à mourir, un flou sémantique qui interroge plusieurs députés. À déterminer également la place du médecin, c'est lui qui juge si un patient est éligible ou non à l'aide à mourir. Pour l'Ordre des médecins, cette décision doit être collégiale et ne pas reposer, comme le prévoit le texte aujourd'hui, sur les épaules d'une seule et unique personne. La responsabilité est trop grande, le risque de poursuite judiciaire aussi. Autre point sensible, la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, quasiment impossible à évaluer pour les professionnels de santé. Mais faire sauter ce verrou, c'est la porte ouverte aux dérives, mettent en garde plusieurs députés. L'équilibre est difficile à trouver, il faut faire attention à ne pas transformer cette loi en parcours du combattant, préviennent les associations pro-euthanasie. Les parlementaires vont devoir trouver un chemin de crête. Ils ont jusqu'au 7 mai pour déposer leurs amendements.
Le satisfecit de Bruno Le Maire ce matin, la croissance de 0,2% au premier trimestre traduit selon lui la solidité de l'économie et la stratégie payante du gouvernement. Autre chiffre de l'INSEE ce matin, celui de l'inflation, 2,2% en avril. En un an, un patron du CAC 40 gagne en moyenne ce qu'un de ses employés mettra 130 ans à toucher. Étude d'Oxfam publiée ce matin. Le fossé ne cesse d'ailleurs de se creuser. En 1979, les dirigeants du CAC 40 ne gagnaient que 40 fois plus que le SMIC. Pour Oxfam, tout cela est dû à des rémunérations des dirigeants déconnectés. Le PDG de Carrefour, selon Oxfam, gagne ainsi en 9 heures l'équivalent du salaire moyen annuel de ses salariés. La palme revient au PDG de Téléperformance, le leader mondial des centres d'appel, qui gagne plus de 1400 fois le salaire moyen de son entreprise. À l'étranger, un accrochage en pleine mer de Chine. Manille accuse Pékin d'avoir tiré sur deux de ses navires et de lui bloquer l'accès à un récif disputé. Et puis, c'est le phénix du tennis qui inlassablement se remet sur pied. Rafael Nadal, 38 ans et au corps tout cabossé, s'est hissé hier soir en 8e de finale du tournoi de Madrid. Troisième victoire d'affilée, ça ne lui était pas arrivé depuis presque 2 ans.
Anaïs Feugat, merci. Restez à l'écoute. On est ensemble jusqu'à 10h.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Il est 9h07. Et le 7-10 d'Inter continue dans un quart d'heure. Léa, vous recevez un humoriste et comédien.
Oui, il s'est longtemps rêvé footballeur professionnel avant d'accepter qu'il ne serait pas Zidane ou Mbappé. Il s'est reconverti dans le stand-up et le cinéma et là, ça marche très bien. Nouvelle valeur sûre de l'humour, il joue son nouveau spectacle. Fatigué, coécrit avec Laura Felpin au théâtre Édouard VII à partir du 15 mai. Hakim Djemili est notre invité à 9h20.
La page édito de ce mardi, Média. Cyril Lacarrière nous dira pourquoi Mediapart refuse l'argent de Google, culture, Laurent Delmas nous invitera à découvrir une chanteuse de caractère.
Et puis à 25 ans, elle vient d'être nommée danseuse étoile de l'Opéra de Paris et se produit en ce moment dans le rôle iconique de Gisèle. Bleuenne Battistoni est la nouvelle tête de Mathilde Serrel, ce sera à 9h50. Mais tout de suite, Nicolas, votre débat du 7-10.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Débat ce matin en forme de point d'étape sur l'état de l'opinion à 41 jours des européennes. Hier, le quotidien Le Monde publiait le nouveau volet de l'enquête de référence d'Ipsos en partenariat avec le CEVIPOF, l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Plus de 10 000 personnes interrogées sur les listes en compétition et des enjeux du scrutin. Des lignes de force apparaissent, des tendances se dessinent, pardon, et se confirment. Tout cela est-il pérenne? Tout cela peut-il encore changer? On pose la question ce matin à Jérôme Jaffray, politologue, chercheur associé au CEVIPOF, à Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive, et à Brice Teinturier, politologue, directeur général délégué d'Ipsos France. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Ce qui marque d'abord dans ce nouveau volet de l'enquête Ipsos-CEVIPOF, c'est la solidité, même la progression du Rassemblement national, donnée désormais à 32% d'intention de vote. Par ailleurs, l'écart entre la liste LR et la liste Reconquête de Marion Maréchal se resserre. Reconquête donnée à 5,5%. Ça donne une droite extrême à un peu moins de 40%. Comment l'expliquer, Brice Teinturier ?
Oui, le bloc est considérable, il est en progression. Alors, il s'explique d'abord principalement par le très bon score de la liste de Jordan Bardella. C'est elle qui drive l'ensemble de ce bloc à 32%, avec une pénétration sociologique dans des couches relativement nouvelles.
Expliquez.
Notamment les plus âgés. Moi, je crois que c'est ça le plus frappant. On a aujourd'hui un Rassemblement National qui dépasse largement la liste de Valérie Ayé, y compris chez les 60-69 ans, et qui fait jeu égal à partir des 70 ans et plus. Historiquement, il y avait une résistance des plus âgés au vote RN, c'est terminé. Et c'est ce qui donne une certaine solidité aussi au vote RN, parce que les plus âgés sont quand même les plus participationnistes. Mmh. Et puis on a également un très fort enracinement dans les zones de force du Rassemblement National traditionnel, les ouvriers, taillés. Donc les classes moyennes, une partie des cadres, sont maintenant beaucoup plus sensibles au RN. Et les variables très classiques que nous mesurions auparavant, une décrue très forte du vote RN suivant le niveau de revenus, suivant le niveau de diplôme, restent pertinentes.
Mais s'émousse, c'est ça ?
Elles s'émoussent. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, il faut attendre maintenant les revenus supérieurs à 3 500 € dans un foyer pour qu'il y ait une décrue du vote RN. Mmh. Donc on a quelque chose qui s'est étendu et qui apparaît. On verra évidemment le 9 juin. On a tous en tête le précédent malheureux des régionales où on avait un RN très fort et puis qui finalement n'est pas allé voter. Donc il faut rester prudent. Mais malgré tout, tous nos indicateurs...
Malheureux pour les sondeurs, vous voulez dire.
Malheureux pour les sondeurs, je parle pour ma profession. Mais malgré tout, tous nos indicateurs, certitude de choix, intention d'aller voter, structure sociologique, nous montrent un RN extrêmement puissant.
Sur ce bloc de droite extrême, Jean-Daniel Lévy, vos enquêtes à vous disent aussi la même chose. C'est l'épaisseur du trait. Comment expliquez-vous sa robustesse ?
Je pense que ça vient quand même de loin. On peut rappeler que Marine Le Pen a pris la direction à l'époque du Front National en 2011 et a fait évoluer une partie de la doxa et des orientations de ce que peut être le Front National puis le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent plus à parler uniquement d'immigration et de sécurité, mais ils ont étendu également le spectre des champs sur lesquels ils sont amenés à être intervenus. Ils ont parlé de la laïcité, quitte à la réinterpréter. Ils se sont réappropriés les termes de la République d'un point de vue global. Et puis ils ont eu également un programme à caractère social qui a été bien plus marqué. Quand vous prenez les dernières intentions de vote que l'on peut voir, elles sont en cohérence d'ailleurs avec des résultats électoraux. En 2014, aux élections européennes, pour la première fois, le Rassemblement National est arrivé en tête d'un scrutin au niveau européen. Ça a été confirmé au premier tour des élections régionales de 2015. Aux dernières élections européennes de 2019, à nouveau, le Rassemblement National est arrivé en tête. Donc il y a une dimension qui est d'ordre à caractère idéologique. Et quand on prend la dernière élection présidentielle, la première motivation de vote des électeurs du Rassemblement National, de Marine Le Pen, n'était pas l'immigration, n'était pas la sécurité, mais était la thématique du pouvoir d'achat. Et quand vous prenez aujourd'hui la projection des Français dans le cadre de ces prochaines élections européennes, ils nous disent qu'à nouveau, leur première motivation de vote, c'est la question du pouvoir d'achat, et la deuxième motivation de vote, c'est la question de l'immigration. Donc ça correspond à ce sur quoi le Rassemblement National est clairement identifié.
Jérôme Jaffray, votre lecture de cet aspect-là du spectre politique ?
Mais écoutez, pour ne pas répéter ce qu'ont dit excellemment mes camarades et amis, d'abord, ce qui frappe dans cette campagne, c'est que ce sont les sondages qui font la campagne. On dit souvent que les sondages font l'élection, et du coup, les pauvres sondeurs, le soir du vote, sont interrogés sur les différences. Là, c'est quelque chose de différent et de nouveau. La campagne se fait autour des sondages. C'est l'élément. Les calculs, les écarts, les niveaux. C'est le débat politique porte sur ça. Et à un point que, personnellement, je ne pense pas avoir vécu jusque-là. Il n'y a pas d'événement qui marque. Même le discours d'Emmanuel Macron, la semaine dernière, n'a pas impacté comme on pouvait le penser. Deuxième caractéristique que je note, c'est un vote d'humeur pour le moment. Une manifestation d'humeur sur l'état du pays, sur les crises que les Français considèrent que trop fréquentes, trop violentes, qu'ils imputent au pouvoir en place. C'est donc largement une sanction contre le pouvoir en place, un vote d'humeur, surtout quand l'humeur est mauvaise, bien sûr. Et puis c'est aussi un vote critique à l'égard de l'Europe très largement, qui du coup empêche les partisans de l'Europe de développer un discours positif. Je suis très frappé dans l'enquête Ipsos menée en particulier avec le Cevipof du résultat sur est-ce que l'action de l'Union européenne est positive ou négative pour le pays, ou ni l'un ni l'autre. Positive 23%, 54% négative. C'est un résultat du coup très dur pour tous les partisans de l'Europe qui sont, et derrière ça, évidemment, le parti qui est à la fois le plus opposé au pouvoir et le plus critique à l'égard de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, c'est le Rassemblement national. Donc voilà un peu l'explication de fond.
Un mot sur l'humeur, Brice Teinturier.
C'est une humeur qui vient de loin, parce que c'est aussi un vote extrêmement nationalisé et qui continue à se nationaliser encore plus. Entre nos deux vagues d'enquête, ceux qui votent en nous disant qu'ils le font sur les considérations nationales augmentent. C'est plus de la moitié maintenant des électeurs, et c'est évidemment massif chez les électeurs du RN. Donc le vote anti-Macron, le vote anti-gouvernemental, qui trouve son origine dans beaucoup de choses depuis 7 ans, et notamment dernièrement sur les questions de retraite et autres, eh bien c'est ça qui est le levier aussi de la dynamique du Rassemblement National. Il y a tout ce que Jean-Daniel a rappelé, mais il y a également cette dimension très forte. Ils incarnent le vote anti-Macron, ce n'est pas Mélenchon qui incarne ce vote, oui. C'est bien Bardella.
Alors regardons maintenant la liste Renaissance, enquête après enquête, elle ne décolle pas, et dans l'enquête dont nous parlons ce matin, Valérie Ayé baisse même d'un point à 17% d'intention de vote. Comment expliquez-vous cette situation, Jean-Daniel Lévy ?
Déjà par une démobilisation de l'électorat d'Emmanuel Macron. On peut voir en fait que en 2019, il y avait une forme de cohérence entre le vote à la présidentielle en 2017 et le vote aux élections européennes qui ont suivi, et avec des électeurs qui se sont dit le seul candidat qui a fait distribuer des drapeaux européens dans le cadre d'un meeting national. En étant candidat à l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Donc indéniablement, lorsqu'on est favorable à l'Europe, lorsqu'on pense que la place de la France en Europe doit être plus importante, il y avait une vote quasiment naturelle qui amenait ces électeurs à voter en faveur de la liste à l'époque qui était conduite par Nathalie Loiseau. Aujourd'hui, ça s'est quand même quelque peu étiolé. Il y a des électeurs, notamment de manière un peu caricaturale, qui sont plutôt issus de la gauche, qui ont été déstabilisés par des propos qui ont été tenus par le président de la République et par des orientations, à savoir la loi retraite, la loi immigration, les différentes positions qu'on peut avoir plus récemment sur les chômeurs ou éventuellement sur les fonctionnaires, qui ne veulent pas forcément sanctionner à proprement parler le président de la République, mais qui ne trouvent pas suffisamment d'élan pour pouvoir se déplacer pour aller voter. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous prenez 100 électeurs qui sont favorables à la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, vous en avez uniquement un quart qui déclare qu'ils ont l'intention de voter pour la liste conduite par Valérie Ayé, donc c'est-à-dire soutenue par le président de la République. Ces 25% étaient 40% en 2019.
Les problèmes de cette liste viennent d'où, selon vous, Jérôme Jaffré ? D'une tête de liste qui n'était pas connue, des leaders de la majorité qui ne s'engagent pas et ne font pas campagne, ou du fait, comme le disait Brice Teinturier, que ces élections sont aussi l'occasion d'un vote sanction contre Emmanuel Macron ?
Tout cela, bien sûr. D'abord, il y a un épuisement sociologique qui est absolument impressionnant quand on regarde les sondages de tous les instituts. C'est-à-dire qu'en dessous de 35 ans, alors bien sûr, beaucoup d'entre eux s'abstiendront, mais pour ceux qui iront voter, très très peu, moins de 7-8% seulement votent pour la liste Renaissance. Les catégories populaires désertent totalement le vote Renaissance. Et les classes moyennes, on l'a souligné, le grand changement, c'est qu'elles vont beaucoup plus qu'avant vers le Rassemblement National. Donc, quand vous avez contre vous les catégories populaires et les classes moyennes, votre assèchement électoral est inscrit dans ce qui se passe. Et deuxièmement, il y a une extraordinaire difficulté pour Emmanuel Macron d'imposer ses thèmes. Il y a, dans l'article, dans Le Monde, qui paraît daté d'aujourd'hui, un article de Anne Muxel et Luc Rouban du Cevipof, très intéressant sur l'écart énorme entre les thèmes qu'a développé Macron lors de son discours et les attentes des électeurs sur l'Europe. Ces thèmes Macron, les thèmes c'est l'aide à l'Ukraine, c'est le renforcement de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine, ou c'est encore la construction d'une défense européenne commune. Ils viennent en queue de liste de ce qui intéresse les électeurs sur les enjeux européens dans l'enquête Ipsos avec le Cevipof. Et en revanche, ce qui intéresse les électeurs sur les enjeux européens, les crises, crise migratoire, crise climatique, crise agricole. Donc, un décalage absolu. Les électeurs veulent qu'on réponde aux crises quand Macron voudrait qu'on construise l'Europe de demain.
Alors, il faut qu'on avance. À gauche, maintenant, la liste Glucksmann est donnée à 14%.
On avançait jusque-là, quand même.
Non, mais il faut qu'on avance encore plus vite. Et donnée à 14%. Vous dites, Brice Teinturier, dans Le Monde, qu'il y a là une dynamique incertaine. Alors, pourquoi dynamique ? Pourquoi incertaine ?
Dynamique parce que la progression est continue dans nos enquêtes. On était à 11,5 à l'avant-dernière enquête et puis on a eu une progression qui continue et on est aujourd'hui à 14%. Mais une dynamique, c'est un mouvement continu qui va en s'accélérant. Et on n'est pas encore tout à fait dans l'accélération qui fait notamment que les courbes pourraient se croiser. Et puis encore incertaine parce que le vote de Glucksmann est justement au carrefour de différents flux. Il reçoit des électeurs qui viennent de Jean-Luc Mélenchon, il en reçoit également qui viennent d'Emmanuel Macron, des écologistes, et du coup ces certitudes de choix sont beaucoup plus faibles et ces électeurs peuvent repartir demain, au moins en partie. Et puis il y a un enjeu de mobilisation, Jean-Daniel l'a aussi signalé, on peut penser que la liste AIE a quelques ressources encore sur de la remobilisation de ses électeurs, moins à mon avis sur de la reconquête d'électeurs partis. Mais c'est ça qui fait que cette dynamique est encore incertaine, il faudra vraiment jusqu'au bout vérifier si les flux dont elle est le point d'arrivée restent au même niveau ou pas.
Donc le temps n'est pas venu encore de la cristallisation.
Le temps n'est absolument pas venu de la cristallisation. Si on prend les dernières élections européennes, on peut rappeler qu'on a eu une surmobilisation des jeunes au cours des 2-3 derniers jours en fait, précédant le scrutin, notamment autour de la crise climatique, et qui était une mobilisation qui avait surtout profité à l'époque pour la liste qui était conduite par Yannick Jadot. Donc il y a indéniablement aujourd'hui un point qui est un point qui n'est pas vers la cristallisation. Le deuxième aspect qui peut être un aspect d'inconnu, c'est qu'on sait qu'il y a des grandes thématiques internationales qui jusqu'à présent, effectivement, ont été abordées par Emmanuel Macron dans le cadre de son discours de la Sorbonne 2, dont on sait que d'un point de vue d'opinion, elles préoccupent complètement nos compatriotes, mais qu'elles n'ont pas aujourd'hui de lien entre la campagne électorale et leur mobilisation. Mais on peut penser que si jamais la crise ukrainienne devait être de nature à pouvoir s'accélérer, dans ce contexte-là, il pourrait y avoir une forme de rebasculement ou remobilisation en fait, de partis d'électorats, notamment des électorats qui sont favorables au président de la République.
Je demanderai à Jérôme Jaffray la conclusion rapide sur la liste Glucksmann les mouvements à gauche, d'ailleurs.
La force de cette liste, c'est d'abord que c'est un réceptacle. Des réceptacles du ni Macron, ni Mélenchon, et les Verts n'ont pas construit la force politique qu'on attendait. Et donc, ils recueillent l'ensemble. Sa force aussi, c'est qu'il est hors parti socialiste. Et le leader n'est pas au parti socialiste. Le leader est un homme neuf. Le leader est porteur d'un idéal. L'idéal européen pour les électeurs. Et donc, ça n'est pas... le parti socialiste profite de Glucksmann. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la sociologie, tant chez Harris Interactive que chez Ipsos, c'est qu'on voit que ça ne répond en rien à la crise du parti socialiste. Aucune reconquête de l'électorat populaire dans le vote Glucksmann. Aucune reconquête de l'électorat des moins de 50 ans. C'est un vote de plutôt des personnes de plus de 50 ans et des catégories supérieures et très diplômées.
Merci à tous les trois, Jérôme Jaffray, Jean-Daniel Lévy, pardon. Quand on parle vite, on s'abonne, comme on dit en radio. Jean-Daniel Lévy et Brice Teinturier, merci encore d'avoir été à notre micro. Étienne Dao sur Inter.
Comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. Confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes. C'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier. c'est providentiel.
Etienne Dao sur Inter, il est 9h26.
France Inter. Le 7-10.
Et votre invité Léa ce matin est humoriste et comédien.
Bonjour Hakim Gemili.
Bonjour Léa, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un homme politique, je vous en ai mis quatre, un homme politique, un livre, un paysage et un vice, vous seriez qui, vous seriez quoi?
Alors...
Un homme politique,
Taubira.
Christiane Taubira.
Christiane Taubira, tout de suite, de toute évidence. Okay. Ça m'a paru assez logique.
Un livre,
je dirais Les sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra.
D'accord. Un paysage?
Le château du Haut-Königsbourg, en Alsace.
Ah, là où vous êtes né?
Ouais, là où je suis né.
Pourquoi ce château-là particulier?
Parce que c'est un château qui a marqué mon enfance. Depuis que je suis petit, je le vois. Peu importe où tu te trouves dans la ville, bah tu le vois. C'est magnifique.
Et un vice?
Je dirais de plus en plus beau. Ça commence à devenir gênant. Parce que j'ai été longtemps habitué à être moche. Et là, en fait, j'ai pas l'habitude d'avoir des compliments. On me dit souvent, t'es beau, du coup, je sais pas comment réagir.
J'adore ce vice. Attention, il peut vous perdre, celui-là, particulièrement. Oui. Attention à l'ubris. Je voudrais être dans la peau d'un autre. Je suis fatiguée de moi-même, écrit Oscar Wilde dans Le portrait de Dorian Gray. Est-ce que ça vous arrive d'être fatiguée de vous-même?
Assez régulièrement. Déjà,
de votre beauté, vous êtes un peu fatiguée.
Là, c'est fatigant. En fait, je pensais pas que c'était éprouvant d'être beau, mais c'est vrai que c'est relou.
Oui. Non, vous êtes parfois fatigué de vous-même.
Oui, bien sûr, ça m'arrive.
Fatigué, c'est le titre de votre nouveau spectacle que vous jouerez au théâtre Édouard VII à partir du 15 mai prochain. Pas mal, le Édouard VII, c'est chic.
C'est magnifique.
Et oui.
C'est un des plus beaux théâtres dans lequel je me suis produit de ma vie, je pense.
Vous vous destinez à une carrière de footballeur professionnel avant de reconnaître que vous ne seriez pas Zidane.
Oui.
Vous êtes ensuite reconverti dans le stand-up et l'humour à la télé, dans Click, sur YouTube aussi. Ça a marché assez vite pour vous. Ça vous fait marrer de pas être Zidane.
J'ai vraiment dit ça.
Ouais,
j'ai
non,
dit.
C'est moi qui ai dit.
C'était purement gratuit et méchant.
Mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai.
Vous faites aujourd'hui pas mal de cinéma aussi. On vous a vu récemment dans Ici et là-bas avec Ahmed Silla, mais aussi dans Chasse gardée, le succès surprise de cet hiver qui a fait plus de 2 millions d'entrées au cinéma. Bref, finalement, avoir renoncé au foot professionnel et à être Zinedine Zidane, ça vous a plutôt réussi. Ou ça reste une blessure, un rêve brisé?
Ouais, ça restera toujours un petit rêve brisé, mais moi je crois au destin et je me dis qu'en fait, si j'étais passé pro, j'aurais peut-être fait n'importe quoi dans ma vie. Puis là, je suis très heureux au final. Hein. Je suis marié, j'ai mon enfant, je suis très content.
Oui. En fait, vous avez arrêté vers 16-17 ans. Vous étiez effectivement en sport-études et...
Exactement,
Et vous étiez bon, très bon.
J'étais plutôt bon, ouais.
Et vous avez eu un croisement de ligaments?
Un ligament croisé, ouais.
Un ligament croisé.
Un croisement.
Je la ramasse ce matin.
Un ligament croisé.
Mais en réalité, comment on va faire cette interview? Mais en réalité, vous dites vous-même, vous reconnaissez vous-même que vous n'étiez pas assez bon en fait.
Mais évidemment, à un moment donné, il faut être honnête parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette excuse-là du croisement des ligaments justement et qui en font tout et n'importe quoi. C'est la première fois que j'entends ça. Et en vérité, je trouve ça, c'est catastrophique. Pardon.
On passe à autre chose. Ce nouveau
moi, je propose qu'on reste sur les croisements de ligaments.
pardon.
Je ne m'attendais pas du tout à cette tournée.
Moi non plus, je ne m'attendais pas à dire ça. Ce nouveau spectacle fatigué, co-construit avec Laura Felpa, vous y parlez de l'époque, des traditions, de ce que ça fait d'être plus riche qu'avant, de votre couple, de votre fils de 3 ans, de la religion. Ouais. Mais pourquoi ce titre fatigué? Vous êtes fatigué de quoi?
Fatigué, je suis fatigué de plein de choses, de la société de manière globale. Tout me fatigue, moi, en vérité. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir de plus en plus aigri. Et du coup, en fait, pour lutter contre cette aigreur, entre guillemets, il fallait que j'extériorise un petit peu sur scène.
Mais comment on peut être aigri à même pas 30 ans? Comment on peut devenir aigri?
Bah, les informations, je pense, au bout d'un moment, moi, ça commençait à me rentrer un peu trop dans le cerveau. Tout ce qui se passe un petit peu autour de moi, etc. Puis vous savez, des choses un peu qui se réaniment dans nos cerveaux, dans nos têtes, on se dit, en fait, faut quand même que je parle. Faut quand même que je m'exprime, ça fait du bien quand même de parler.
Et pour parler, parce que vous dites beaucoup de choses dans votre spectacle, vous préférez le dire sur scène que sur les réseaux sociaux?
Évidemment.
Ou à la télé? Pourquoi?
Parce que sur scène, c'est mon espace de liberté. Et puis sur scène, tout est clair, net et précis. C'est moi qui ai choisi mes mots. Il n'y aura pas de. On ne peut pas décontextualiser ce que je dis. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur les réseaux, on peut prendre un mot, puis le sortir, faire un montage avec. Et puis après, on te fait dire tout et son contraire.
Laura Felpin, à qui vous devez beaucoup, vous dites sans elle, j'aurais pas fait ce spectacle. C'est
vrai.
Vraiment elle qui vous a poussé en vous disant mets tes tripes sur la table.
Ah, mais sans elle, franchement, j'aurais pas du tout écrit la base de ce spectacle. C'est avec elle qu'on s'est enfermé 2-3 jours. Et puis on a écrit tout le spectacle en 2-3 jours. Ouais.
Elle nous en parlait de l'époque qui l'a fatiguée aussi. Surtout quand la génération de vos parents vous rappelle en permanence que c'était mieux avant.
Oui. Je me pose même pas la question parce qu'on n'a pas le choix de la vivre. Donc je me dis autant y mettre beaucoup de joie. Et aussi, surtout, c'est difficile pour nous de cette génération-là d'entendre en permanence que c'était mieux avant, que le monde brûle. Et c'est vrai, c'est la vérité. Nous, on va faire ce qu'on peut, mais on est un peu cette génération nullos parce qu'on a eu Internet un peu tard, mais on est quand même vachement dedans. Donc on a du mal à trouver notre position et les vieux nous aident pas, quoi, moi je trouve. Et je dis toujours à mon père, mais arrêtez en fait, là, nous on est là, puis vous nous avez fabriqué. Donc maintenant que vous nous avez fabriqué, il va falloir qu'on...
Vous en avez marre, en fait, de ce petit
bruit. Ouais, d'entendre ça, c'est horrible pour nous, quoi. Ouais. Parce qu'on se dit, oui, bah, c'était mieux avant, c'est sûr que dans les années 70, on pouvait cloper dans les avions. Bon, allez, on passe à autre chose et on avance, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Voilà, un petit coup de gueule.
Elle vous fait marrer?
C'est
son coup de gueule ou c'est...
Elle me fait marrer, Laura. Dès que j'entends sa voix, je rigole de toute façon. Mais je me reconnais dans ce qu'elle dit, elle a raison. En plus, moi-même, issu d'immigration aussi, de la troisième génération, forcément, je me reconnais encore plus. Parce que nous, on a le cul entre plusieurs chaises, entre guillemets, dans le sens où on est intégré, on est français, etc. Mais on doit toujours et encore honorer les traditions familiales.
En fait, on est toujours entre... Ah, on va parler de vos origines. C'était compliqué pour vous, les origines. Vous ouvriez votre précédent spectacle sur les attentats du Bataclan. Là, vous ouvrez sur le conflit du Proche-Orient. Vous aimez les sujets faciles et simples.
Ouais, j'adore ça. Non, mais moi, je considère que lorsque tu es humoriste, surtout dans notre époque, tu peux plus arriver pour faire le gogol, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge
personne. C'est ce que j'allais vous dire, il y en a beaucoup qui se planquent et qui continuent de raconter leurs problèmes avec leurs femmes, leurs bobos à la tête, et qui ne se mouillent pas, et encore moins sur le Proche-Orient.
Voilà, bah donc, c'est que t'as pas grand-chose à dire. Donc, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je juge personne, mais en tout cas, moi, pour parler de mon cas, moi, personnellement, je ne peux plus monter sur scène et raconter des histoires de frigidaire, ça, c'est plus possible.
Est-ce encore possible de parler du Proche-Orient avec nuance?
Bien sûr.
Voire avec humour?
Bien sûr, bien sûr. Ah bah ouais, je le fais dans le spectacle. Franchement, ça fonctionne bien. Et puis je reçois toujours des messages agréables après le spectacle sur les réseaux, en me disant que c'était bien fait, etc. Parce que c'est vrai que je me suis bien pris la tête là-dessus quand même. Et c'est un sujet, c'est vrai que moi aussi je pensais tabou ce sujet-là, mais en fait quand on parle bien de manière concrète avec des faits et puis de l'humour surtout, ça fonctionne.
Vous dites que pendant longtemps vous aviez un mal-être par rapport à vos origines, mal-être d'être arabe, d'origine tunisienne et musulman. Vous dites avoir beaucoup menti sur vos origines.
Oui, exactement. Quand j'étais plus jeune, ouais, c'est vrai qu'on
m'a... Vous disiez quoi?
Bah, j'étais bête parce que c'était très ridicule. Je disais que j'étais égyptien au lieu de dire tunisien, alors que c'est plus ou moins pareil.
Marrant,
à l'époque,
ça.
Je voyais pas l'Égypte comme tu vois un truc du Maghreb. Pour moi, c'était exotique, c'était classe. Mais ça l'est, hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas.
Et pourquoi vous aviez ce mal-être de dire que vous étiez tunisien, arabe ou musulman?
C'est les gens qui me mettaient mal à l'aise. J'étais honteux un peu de ma condition.
Vous dites j'avais honte.
Ouais, c'est vrai. C'est une vérité. Ouais. Les gens autour de moi me mettaient pas à l'aise avec ça. Enfin, ils avaient toujours des a priori un peu bizarres sur les gens de la communauté maghrébine et musulmane. Donc, du coup, moi, j'avais un peu honte. Je voulais être avec eux. En fait, je voulais pas être dans le camp qui détestait. Donc, j'ai toujours voulu être avec ces gens-là. Ça m'a perdu dans ma vie, honnêtement. Ça m'a perdu dans ma vie. J'ai vécu 3-4 années très sombres.
À quel âge?
C'était entre mes 20-24 ans. entre mes 20 et 24 ans, c'était sûrement la pire période de ma vie. Là où les gens s'amusent, où ils kiffent, etc. Moi, c'était une des pires périodes de ma vie. J'étais en recherche de moi-même. Et c'est là que je pense que je me suis construit.
Et à un moment, vous avez eu, vers 24-25 ans, honte d'avoir eu honte.
Ah oui. Ensuite, effectivement, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était très grave. Il faut tout assumer dans la vie. Il n'y a aucun problème à être musulman, français, arabe. Bon, c'est comme ça. C'est
très grave par rapport à vos parents, d'une certaine manière, parce que c'était une manière de rejeter ce qu'ils vous avaient donné ou ce qu'ils étaient.
Ah, mais je regrette tellement. Mais c'est pour ça que j'en parle. Normalement, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Mais moi, j'en parle parce que je pense qu'il y a des gens qui sont à ma place, ou qui ont été en tout cas à ma place, et qui peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, c'est ce que je dis moi, c'est que faut, quoi qu'il arrive, il faut assumer ce qu'on est. Et puis, les gens, ils vous acceptent ou pas, mais en tout cas, il faut assumer ce qu'on est.
Et vos parents aujourd'hui, quand ils vous entendent en spectacle dire ça, dire que vous avez eu honte de leurs origines, de ce qu'ils étaient,
Ils comprennent.
Ouais.
Ils comprennent ce que je veux dire. Après, eux, c'est encore une fois, eux, c'est la deuxième génération, donc eux, c'est encore autre chose. Eux, en France, on va dire qu'ils se sont fait tout petits dans leur vie. Ils n'osent jamais trop parler. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, tout simplement, de perdre leur travail, ou ils étaient déjà suffisamment contents d'être là. Ils voulaient qu'on soit intégrés, nous, en fait. Donc, ils se sont fait petits, ils l'ont un peu fermé, et puis.
Vous dites, ils ont tout fait pour vous et votre sœur.
Ouais, c'est vrai. C'est la vérité, ouais. Mes parents, ils ont toujours dit oui à tout ce que j'avais envie de faire. Ma sœur, c'est pareil. Ils nous ont donné énormément de force, nos parents.
Vous avez compris à un moment que les identités peuvent s'additionner, qu'on n'est pas obligé de choisir. Vous dites, moi maintenant, je suis alsacien, français et tunisien, c'est mes origines. Je mange à la fois de la tarte flambée, de la chouchouka et de la tartiflette.
C'est la vérité.
Et qu'est-ce que vous préférez entre les trois?
Franchement, la tarte flambée, quand même, c'est magnifique.
La tarte flambée. Aujourd'hui, votre fils, il est français, sénégalais, guinéen, marocain, tunisien.
Ouais.
Vous dites qu'il a gagné le jackpot.
Il a gagné le jackpot, ouais, c'est ça, c'est un plus 4 ou uno.
Ouais.
C'est assez incroyable.
Comment vous lui direz d'assumer ses identités multiples sans en avoir honte, qu'il ne fasse pas le même chemin que vous?
Ah ouais, mais j'espère qu'il écoutera ce genre d'interview, déjà. J'espère qu'elles seront sur l'INA.
Là, il a 3 ans, donc.
Voilà.
S'en fout un peu des identités, heureusement.
Ouais, heureusement. Pour l'instant, ouais, c'est tout va bien encore, mais je sais pas comment je lui expliquerai encore. Je suis en train de réfléchir à tout ça parce que c'est complexe. De toute façon, il va le voir sur sa gueule, hein, il n'a pas le choix.
Et ouais.
Mais ça va être. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère que les choses vont évoluer un petit peu parce que ça risque d'être compliqué sinon.
Hakim Jemili, le mariage, ça vous fatigue ou ça va?
Le mariage, d'un point de vue justice, pour moi, ça devrait pas durer plus de 10 ans, mais j'aime beaucoup.
Pourquoi? Pourquoi on doit s'arrêter à 10 ans?
Parce qu'au bout de 10 ans, c'est plus vraiment de l'amour, c'est de la gestion de copropriété. Hein,
vous êtes marié depuis quoi? 4 ans, 5 ans?
Non, 9 ans.
9 ans? Ouais. Ah, mais c'est bientôt fini alors. À l'humoriste Fadili Camara. En tout cas, vous en parlez dans votre spectacle de votre femme et c'est assez drôle.
J'étais très heureux quand je me suis marié. Vraiment, je te jure, Parce que moi, en tant qu'humoriste, je me dis, c'est bien de se marier. Ça va permettre de nourrir mon spectacle, tu vois. C'est vrai, de faire un peu comme tous les humoristes. Ma femme, elle est nulle, ma femme, elle est chiante, elle me casse les couilles, tu vois. Sauf que, pas du tout, moi, je suis super heureux. Je suis dégoûté, je te jure, je suis dégoûté d'être... Non, je te jure, c'est vrai. Même, je vais être honnête avec vous, je me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie que depuis que je me suis marié, je te jure, honnêtement, c'est vrai. Ce matin, je me suis réveillé, elle m'a dit « je t'aime, tu connais ». Je lui ai dit « t'inquiète ». Excusez-moi, hein. De vous éclabousser comme ça avec mon bonheur, mais je suis très heureux. Par exemple, ma femme, elle n'est pas jalouse. Ouais. Mais ça, pour le coup, ça devient presque un peu vexant. Elle n'est pas cool, genre, je te fais confiance, tu sais. Elle est plus cool du genre, de toute façon, tu vas faire quoi? Regarde-toi, frère, voilà.
Elle n'est pas jalouse.
Elle n'est pas jalouse, et moi non plus. On a banni toute forme de jalousie quelconque dans ce couple.
Et comment on fait?
Comment on fait? Bah, chacun fait sa vie, il faut faire confiance et tout.
Il faut faire confiance. Ouais. La carrière au cinéma, elle décolle en 2019 avec Docteur, un film de Tristan Seguela où vous partagez l'affiche avec Michel Blanc. Vous dites que c'est lui qui vous a appris le cinéma.
Ouais.
C'est lui qui vous a appris à... Il vous a dit, joue, parle normalement, alors que dans les vidéos sur YouTube, vous en faisiez des caisses.
Exactement.
Et vous avez dit, arrête.
Ouais, un jour, il m'a tout simplement dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, la caméra, elle capte tout, Hakim. Donc, t'as juste à me parler normalement. Et tu verras que ça va rendre vraiment comme tu le veux et comme tu le sens.
Cette manière d'articuler que vous avez,
ouais.
Pendant pas mal de temps, on vous a dit il faut que tu changes, il faut que tu prennes des cours.
Ouais.
On comprend pas ce que tu dis.
Oui, oui, oui. Toute ma vie, on m'a dit on comprend pas ce que tu racontes. Il faut que tu ailles voir un orthophoniste.
Ouais.
Et en fait, un orthophoniste, plutôt, j'ai fait une Léa Salamé. Et en fait,
un orthopédiste.
Croisement des ligaments. On va pas s'en
s'en sortir, ça va nous faire la journée. Celle-là, c'est... je sais pas comment elle est sortie, celle-là. Allez, les impromptus pour terminer.
Blanche Gardin, Florence Foresti.
Florence Foresti.
Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze?
Ah là, c'est compliqué.
Ah oui, c'est dur. C'est attendez, dur. Vous avez pas vu celle qui arrive, elle est encore plus dure.
Jamel.
Redouane Bougueraba ou Roman Frécinet?
Oh putain, mais ça, c'est, ouais, dur, ça. Non, c'est trop dur ça. Redouane Frécinet.
Redouane Frécinet. C'est vrai que dans votre spectacle, vous dites Roman Frécinet n'est pas marrant parce que les beaux ne sont pas marrants.
Non, je dis Roman, il est beau. Je dis Roman, il est marrant parce qu'il est moche.
Une deuxième Léa Salamé. Ça fait quoi d'être plus riche qu'avant?
Pardon?
Ça fait quoi d'être plus riche qu'avant? Parce que vous parlez aussi du fait que vous étiez pauvre et que vous êtes devenu riche.
Ouais, c'est vrai, bah, je suis assez mal à l'aise.
C'est vrai?
Ouais, c'est même, je suis pas très à l'aise avec ça encore, faut que je m'y habitue.
Aya Nakamura qui chante Piaf pour les JO, vous trouvez ça bien?
Moi je trouve extraordinaire, tout ce qu'elle fait c'est extraordinaire.
Kylian Mbappé au Real, ça vous fait plaisir ou ça vous fait mal?
Je suis très heureux pour lui.
Ah ouais?
Ouais.
Et pour le PSG?
Bah pour le PSG, si on prend la Champions League cette année, on sera tous très heureux pour lui aussi.
La dernière fois que vous avez pleuré?
La dernière fois que j'ai pleuré, je pense la naissance de mon fils.
Il y a 3 ans, vous n'avez pas pleuré depuis 3 ans?
Non.
Ah bah dis donc.
Enfin, pleurer de rire ce matin.
C'est pleurer de rire ce matin à cause de moi. Et Dieu dans tout ça, Kim Jamili?
Dieu dans tout ça, une très grande place dans ma vie, voilà, très grande place. Un énorme respect pour chaque religieux, voilà, en toutes circonstances.
Fatigué au théâtre Édouard VII à partir du 15 mai. Merci et très très belle journée.
Merci à vous. Merci à suivre avant 10h, Cyril Lacarrière, Laurent Delmas, Mathilde Serrel. Bonjour.
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 Édito Média, Cyril.
Ceux qui disent non à Google.
Édito Culture, Laurent.
Une certaine Marianne Oswald.
Votre nouvelle tête, Mathilde.
Une étoile aînée.
Et tout de suite, le choix musical du 7-10, les Anglaises de The Last Dinner Party, leur single glam rock, Nothing Matters.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. My fingers in, expecting more than just the skin.
The Last Dinner Party qui sera au Festival Rock en Seine au mois d'août. Il est 9h44.
France Inter.
Le 7-10.
Et c'est l'édito média Cyril Lacarrière. Retour ce matin sur Mediapart. Qui dit non ?
Qui dit non à l'argent de Google ? La première réaction, c'est forcément de penser qu'ils sont dingues chez Mediapart. Oui, il faut prendre le pognon de Google. Et pourtant, l'histoire n'est pas aussi simple que ça, pas aussi simple qu'un gros chèque. Je vous refais l'histoire, justement. 15 avril 2019, la Commission européenne vote une directive sur le droit d'auteur. Elle doit protéger les éditeurs de presse face aux plateformes numériques. Depuis 5 ans, donc, Google, Facebook et les autres doivent payer pour utiliser les contenus de tous les éditeurs doivent, en théorie, car depuis 2019, les plateformes ont surtout négocié avec les médias français. À ce stade, seul Google a signé un accord. C'est pour ça que les premiers chèques arrivent et c'est pour ça qu'on en arrive à cet imbroglio avec Mediapart.
Pourquoi Mediapart a refusé l'argent ?
À cause d'une clause de cet accord, l'interdiction faite aux éditeurs de révéler combien ils touchent. Et oui, c'est une règle officieuse mais très partagée dans la Silicon Valley, l'opacité total. Et c'est tout l'inverse de Mediapart qui fait de la transparence sa marque de fabrique, au point que chaque année, le site publie l'intégralité de ses comptes. Karine Fouteau, la nouvelle présidente et directrice de la publication, me disait hier que c'était inconcevable de laisser une ligne blanche juste pour Google. Alors que faire ? Soit Mediapart brave l'interdiction, mais il y a un risque de rendre l'accord global caduc, soit il refuse l'argent de Google et il espère que ça fasse bouger les lignes.
Pourquoi c'est si important pour Google que les montants reste secret toute cette opacité-là ?
Eh bien, parce que depuis qu'on veut l'obliger à passer à la caisse, Google répète en boucle que l'information, c'est peanuts dans son chiffre d'affaires. Selon lui, à peine 2% des requêtes sur son moteur de recherche sont liées à l'actualité. Et le problème, c'est que c'est évidemment très difficile de connaître la réalité. Personne n'a accès au cœur du réacteur. Et c'est là que le montant des chèques peut être utile. Je vous explique pourquoi. S'il s'avère que les sommes sont importantes, c'est que les contenus des éditeurs comme Mediapart et les autres génèrent du trafic plus que la version officielle donnée par Google. Donc, Google n'a aucun intérêt à ce que tout le monde sache combien il paye et aucune autre plateforme n'y a intérêt. Facebook, X, LinkedIn et les autres, toutes vont exiger la même clause de non-transparence.
Et alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Eh bien, la question, c'est est-ce que les médias français vont s'unir pour faire pencher la balance en leur faveur ? C'est aussi le sens de la position de Mediapart, être le premier de cordée pour que les éditeurs renversent la table. Sacré pari. Face aux géants du numérique, les médias ont souvent joué la carte solo et ça a été une erreur monumentale. C'est moins le cas aujourd'hui, tant mieux. Le monde a changé, des lois existent et le Far West qui a permis à ces plateformes de devenir plus puissantes que des États est derrière nous. Google a déjà été condamné 2 fois pour non-respect de cette loi sur le droit d'auteur. 2 amendes, 500 millions d'euros et 250 millions il y a quelques jours. Preuve que ces géants ne sont pas intouchables et que Mediapart a raison d'ouvrir cette brèche aux autres de suivre.
Cyril Lacarrière, merci. Il est 9h47, c'est l'édito culture. Laurent Delmas, ce matin, vous nous parlez de Marianne Oswald.
Oui, Nicolas, la chanteuse, diseuse, mais également actrice, scénariste et productrice de radio, Marianne Oswald, née Alice Bloch à Sarreguemines en 1901, morte à Limeil-Brévannes en 1985. Et si je vous parle d'elle ce matin, c'est à l'occasion de la réédition de ses mémoires de jeunesse, « Je n'ai pas appris à vivre », aux éditions Benoît Broyard. Un titre aussi rugueux et âpre que cette personnalité et que sa voix aussi, écoutez plutôt.
Brandy, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements ? Brandy, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant.
Oui, c'est du Prévert pur jus, tendance noir, c'est noir. Marianne Oswald fut son amie et l'interprète idéale des chansons de Prévert, dont cette terrible chasse à l'enfant dont on vient d'entendre un extrait. C'est d'ailleurs Prévert qui signe la préface des mémoires de cette chanteuse vraiment pas comme les autres. Incroyable préface où la prose poétique de l'écrivain se déploie sans ponctuation et d'un trait dit toute la singularité de Marianne Oswald et plus encore de sa voix, d'où se détache, écrit-il, les épines de fer barbelées de cette fleur sauvage et crispée. Une voix de naufragé, ajoute-t-il, de chaînes brisées, de cadenas arrachés, de palissades renversées, cette voix de barreaux sciés. Et c'est elle que remarque tout autant Jean Cocteau quand il dit à son propos « Cette puissance rouge d'incendie, de mégots, de torches, de phares et de fanales ».
celle qui fut aussi la première à chanter en France l'opéra de quatre sous de Brecht.
Mais alors comment expliquer qu'elle soit à ce point tombée dans l'oubli ?
Alors disons Léa qu'elle ne s'est pas toujours elle-même facilité la tâche quand par exemple elle déclarait « Je suis un être de sale caractère ». Les incompréhensions face à ce qui dérange, mais également, il faut le dire, l'antisémitisme dont elle fut la cible avant-guerre, ont fait le reste. Et pourtant, quelle actrice dans Les Amants de Vérone d'André Cayatte ? Et pourtant, quelle slameuse avant l'heure quand elle dit un texte de Cocteau, Anna la Bonne. Et pourtant, quelle postérité assumée et revendiquée par des chanteuses comme Juliette Gréco, Juliette et Catherine Ringer, sans oublier Barbara qui a dit un jour à son propos « J'ai été très frappé par Marianne Oswald. C'était d'une férocité, d'un modernisme, d'un désespoir. C'était stupéfiant, Marianne Oswald. » Alors lisons et écoutons-la, celle qui ne mâche pas ses mots et ne nous le fait pas dire.
Passez votre chemin comme je passe le mien. C'est pour mon plaisir que je patauge dans la boue. La pluie, ça me fait rire. Je ris de tout et de tout et de tout. Si vous avez les larmes faciles, rentrez plutôt chez vous.
Je n'ai pas appris à vivre de Marianne Oswald aux éditions Benoît Broyard. Merci Laurent et à la semaine prochaine. 9h50, les nouvelles têtes, Mathilde Serrel. Ce matin, une étoile qui n'est qu'au début de son rêve. Bleuenne Battistoni est dans notre studio, portrait sonore.
Les petits rats de l'opéra existent depuis 3 siècles. C'est le musicien Lully qui créa l'école. Et depuis ce temps, de royaume en république, les apprentis danseurs ont trouvé dans cette institution la meilleure des formations classiques.
Elle pratique depuis l'âge de 4 ans, mais c'est en regardant des reportages sur l'école de danse de l'Opéra de Paris qu'elle a eu envie elle aussi d'intégrer ce Poudlard de la danse classique.
Suivez-moi.
Pour elle, c'est aussi magique que dans Harry Potter. Après 2 tentatives, elle est prise à 15 ans, puis rejoint le corps de ballet à 18. Commence alors une dure ascension vers le firmament.
T'es danseuse à l'opéra ?
Presque ! Ma mère et moi, nous attendons ma lettre d'admission à l'opéra ! J'ai tellement de talent !
Moi aussi ! C'est mon rêve d'être ballerine !
Arrête de rêver, ma pauvre fille ! Moi, je suis une étoile ! Alors que toi, tu ne brilleras jamais !
Je vous rassure, ça finira bien, comme dans Ballerina de Disney. En revanche, les débuts sont difficiles après 4 années, souvent passées sur le banc de touche. Quelque chose en elle se révèle au moment du confinement. Puis tout bascule en 2022, lorsqu'elle devient soliste remplaçante pour Gisèle, un rôle mythique du répertoire.
Le premier acte, c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme. Elle est très innocente, c'est une sorte d'amour universel. Elle le prend comme il est, et elle est éperdument amoureuse. Et un jour, elle découvre en fin de compte la supercherie, c'est-à-dire que lui-même est promis à une autre, et elle en meurt.
Alerte spoiler! Mais pour l'avoir tant dansé et adapté, Marie-Claude Pietragala raconte bien la puissance de cette Gisèle qui va permettre à notre jeune danseuse de décoller. C'est finalement à l'issue d'une représentation de La Fille mal gardée qu'elle est nommée au rang d'étoile, c'était il y a un mois, et la voilà à 25 ans, tête d'affiche non remplaçante sur Gisèle. Bleuenne Battistoni, bonjour.
Bonjour.
Et bravo, quelle jolie voix après cette explosion de guitare. Vous aviez déjà un prénom d'héroïne, Bleuenne en breton, je crois que ça signifie petite fleur, c'est ça ?
Bon, peut-être qu'il y a plusieurs significations, moi on m'a dit fleur blanche, mais...
Petite fleur blanche.
On va dire ça.
Puisqu'on est dans les prénoms, parlons de Gisèle, l'héroïne romantique du 19e siècle, une jeune paysanne qui dans un bal tombe amoureuse donc d'un garçon, qui en fait est promis à une autre, elle est blessée, humiliée, sombre dans la folie et meurt, puis revient se venger avec les autres âmes de jeunes filles délaissées. Elle représente quoi pour vous, Gisèle, Bleuenne Battistoni ?
Personnellement, dans mon évolution de danseuse, Gisèle, c'est un des premiers ballets que j'ai vus. et qui m'a fait rêver et qui m'a fait découvrir l'opéra. Et ensuite, la variation du premier acte, c'est une variation que j'ai dansée quand j'avais une quinzaine d'années et qui m'a en quelque sorte permis de rentrer à l'école de danse de l'opéra, donc qui m'a ouvert les portes de cet univers. Et puis, plus tard, quand j'ai remplacé Au pied levé, c'est aussi le ballet qui m'a fait me montrer montrer que j'étais capable d'assumer des responsabilités. Donc c'est revenu à chaque fois un peu tout au long de mon parcours et ça a beaucoup d'importance à mes yeux.
C'est votre rôle fétiche. Donc c'est vrai qu'en 2022, personne ne connaissait votre nom. Vous remplacez Au pied levé à la fin du premier acte et vous finissez sur un tonnerre d'applaudissements. C'était un moment clé. Comment vous l'avez vécu, vous, le moment où vous dites « allez, vas-y ». Tu fais Gisèle.
C'est jamais évident ce genre de remplacement parce que quand on est remplaçant, on n'a pas les répétitions d'une titulaire, donc il faut un peu faire avec. Et là, ça s'est passé en plein spectacle, donc il s'est passé 2 minutes entre le moment où je suis sortie de scène en tant que corps de ballet et le moment où je suis rentrée dans le rôle. Et c'était d'autant plus particulier que c'était les adieux d'une étoile, donc le public était là pour elle. C'est un public qui est toujours un petit peu spécial avec beaucoup de gens du milieu. Et puis c'était une soirée assez émotionnelle pour ces raisons-là. Donc forcément, il y avait l'enjeu de remplacer, mais il y avait aussi l'enjeu de finir une soirée qui devait vraiment pas se passer de cette manière-là. Donc...
Et finalement, vous êtes portée au nu au moment où vous êtes dans une partition à deux. Finalement, elle fait ses adieux et vous êtes portée au nu et ça va vous ouvrir en fait votre carrière à l'Opéra de Paris qui redécolle à ce moment-là. Hier, vous étiez sur la scène de l'Opéra Garnier. C'était l'avant-première. Les places, elles sont à 10 euros. Donc le public était plein de jeunes, infesté de jeunes. Et j'entendais des jeunes filles à côté de moi qui disaient « Mais vraiment, c'est le meilleur ballet classique. C'est incroyable, Gisèle. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce ballet, Blune Battistoni ?»
Gisèle, c'est vraiment un ballet mythique. C'est assez vieux déjà. Je crois que ça a été créé
19e
siècle. 1841.
Exactement.
Et en fait, c'est un des premiers ballets où les danseuses sont montées sur pointe. Donc ça a vraiment fait évoluer la technique classique. Et puis l'histoire, c'est ancré dans une réalité qu'on ne connaît plus aujourd'hui, où il y a des châteaux forts et des princesses. Mais ça parle d'amour, ça parle de trahison, ça parle de rédemption. Et finalement, je pense que c'est quand même des choses auxquelles on peut tous se raccrocher ou dans lesquelles on peut se reconnaître. Et je pense que c'est pour ça que c'est autant prisé encore aujourd'hui et que ça reste actuel.
C'est un revenge ballet, on pourrait dire.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, Gisèle, dans le deuxième acte, elle n'est pas tant dans la revanche que dans le pardon, en fait, justement, par rapport aux autres Willis qui, elles, veulent se venger des hommes. Gisèle, elle a ce côté magnifique où malgré tout ce qu'a fait Albrecht, elle le pardonne et elle lui permet de vivre. Elle empêche les Willis de le tuer jusqu'à ce que l'aube arrive et qu'il puisse continuer sa vie.
Merci pour cette explication de texte. Alors, vous, il s'est passé un truc au moment du confinement aussi qui vous a libéré. Il n'y a pas que ce rôle de Gisèle aussi qui a ouvert votre carrière en 2022. Il y a eu une bascule. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment dans votre parcours ?
Oui, au moment du confinement, ça faisait 3-4 ans que j'étais dans le ballet et j'avais pas encore, entre guillemets, la vie dont je rêve, les rôles dont je rêvais, cet élan un peu. Et tout s'est un peu arrêté pour tout le monde au même moment et je pense que ça a été un peu un soulagement d'avoir l'autorisation de m'arrêter un petit peu et de découvrir d'autres choses de la vie. Et puis
et de vous-même ?
De moi-même et de me reconnecter un peu à pourquoi je danse, pourquoi j'en ai envie et de reprendre la danse en ayant vraiment envie et plus forcément sous...
Vous l'avez choisi une deuxième fois ?
C'est ça, j'ai eu la sensation de rechoisir ce métier à ce moment-là et après ça, je ne me suis pas retournée.
Alors en tout cas, maintenant, vous avez votre passe étoile qui donne accès à tous les grands rôles. Ça n'est que le début pour vous et vous le dites. Vous aimez également l'inconfort. Bravo à vous et bonne route, Blaine Battistoni, Gisèle. Ouais. Bravo, c'est à l'Opéra de Paris, le ballet de Jean Coralie et Jules Perrault, il faut le dire. Vous êtes dans le rôle titre, mais il y a aussi d'autres étoiles, Dorothée Gilbert, Guillaume Diop, Germain Louvet, Hugo Marchand, entre autres. Rendez-vous le 4 mai pour la vraie première et puis les 14 et 16 mai.
Merci Mathilde et bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Nicolas.
Le programme de Grand Bien
vous fasse.
Tiens,
de quoi avez-vous rêvé cette nuit ?
Ah, j'en ai plus aucun souvenir. La nuit a été trop courte.
De moi ?
Pourquoi rêvons-nous ?
Pourquoi rêvons-nous? Pourquoi les rêves sont-ils de puissants instruments de connaissance de soi? Nous recevons le neurochirurgien chercheur en neurosciences américain Raoul Jandial. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Racontez-nous vos rêves.
À tout de suite, les infos à suivre.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur esda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ?